Allô, allô.
Bonjour.
En vrai, quand tu appuies sur X, ça met la pression.
Ok, ça marche.
Tu peux parler dans le micro.
Tu m'entends?
Ouais, c'est super.
Pas facile, les questions.
Ok.
Je vais commencer avec... Si tu le pouvais, dans quel endroit important pour toi retournerais-tu?
Si tu le pourrais, dans quel endroit important pour toi
retournerais-tu? Oh là là.
Il y a un endroit où... Effectivement, où j'appelais ça la maison du bonheur, c'était ma maison d'enfance quand j'étais petit à Mazargues, à Marseille. C'était une grande maison familiale où il y avait tous mes frères, mes parents, ma grand-mère qui habitaient. Et malheureusement, après, on a dû déménager, mais j'appelais ça la maison du bonheur.
J'ai bientôt 70 ans. Et en fait, je ne suis jamais retournée à Alger où je suis née. Mais je pourrais maintenant que je suis adulte, mais je n'y suis jamais retournée. Si je le pouvais, je retournerais sur la place des Palmiers, à Djar es-Sada, Alger. Des palmiers, il y en avait plein. J'aimerais, je crois, avant de mourir, retourner sur la place des Palmiers, à Djar es-Sada.
Je sais pas, je suis née en banlieue, j'ai pas vraiment envie d'y retourner. L'Espagne, pas tout de suite parce que voilà, j'ai enterré ma mère là-bas. Donc pour l'instant, nulle part.
Si je le pouvais, je retournerais dans l'appartement de mes grands-parents à Paris, rue du Cherche-Midi. Il représente... toute une partie de ma vie, des odeurs, des couleurs, des sourires, des grains de voix.
Je retournerai au Maroc, dans la province de Figuig, c'est dans l'Oriental, chez mes grands-parents. C'est de là que mon père vient, et surtout que là je sors du documentaire Renaud 12, qui, au-delà du deuil, parle aussi du rapport un peu des enfants de la diaspora, des enfants d'immigrés, tout ça. Et ça fait très longtemps que je ne suis pas allé là-bas, donc je pense que je retournerai là-bas. C'est dans le désert, c'est magnifique, c'est calme. C'est ressourçant, des fois c'est ennuyant, mais c'est incroyable.
Je pense que cette question, c'est ma question de vie. Depuis que je suis migrée de l'Argentine à l'Allemagne, quand j'avais 9 ans, je voulais toujours retourner vivre à Buenos Aires. Et donc, quand j'avais 16 ans, je l'ai fait toute seule avec ma sœur. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas retourner. C'est qu'on se rappelle les souvenirs du lieu, les souvenirs de l'endroit, ce qu'on a vécu, a changé, car tout change tout le temps. Si on retourne, il faut savoir qu'on retourne à découvrir quelque chose de nouveau, et pas ce qui nous manque.
Je pense que cet endroit, c'est un peu un endroit intérieur. En fait, c'est un endroit de paix et de joie et de plénitude. Et je trouve que cet endroit, par exemple, ça peut être un jour quand j'étais sur une île en Bretagne, allongée dans l'herbe avec le soleil qui posait ses rayons sur moi et juste bien. Ouais, ça, c'est un endroit dans lequel j'aimerais retourner.
Et le dernier endroit où je retournerais, si je le pouvais, ça serait à l'endroit où j'ai rencontré mon amoureux pour la première fois. À l'endroit où on a échangé notre premier bisou. Sur le même banc où on a vu le soleil sur le visage l'un de l'autre. Où on a passé des nuits entières à parler juste dehors, comme ça, sur ce banc. Dans le sud de la France, comme ça, en été. Ouais, je pense que c'est là que je retournerais.
Alors, y a une question sur les bagnoles, alors je vais commencer par ça, là.
Quelle est la voiture dans laquelle tu as le plus de souvenirs?
Peux-tu nous raconter un moment, un objet?
Alors, un jour, un peu à la Pérec, j'ai écrit une liste de toutes les voitures dans lesquelles j'ai pu monter.
La voiture dans laquelle j'ai le plus de souvenirs est une coccinelle orange
qui appartenait dans un premier temps à mes grands-parents paternels.
C'est la 404 de mon père parce que j'ai failli naître dedans.
C'est la Toyota Corolla de mes parents qu'on a beaucoup prise pour aller en Italie avec des gros trajets de genre 15-16 heures.
Une Jetta quand j'avais à peu près 16 ans. Et nous, on l'avait surnommée avec mes potes de l'époque, la Jedi.
Clairement, c'est la Fiat Panda couleur vert guacamole de ma sœur que j'emprunte allègrement depuis qu'elle vit hors de Marseille.
Je viens de m'acheter une voiture, un berlingot, et je suis très heureux. Je suis un peu dans une période de passion avec elle. J'ai acquis ma première voiture il y a un mois, pour mes 37 ans. J'ai mon permis à 35 ans.
Je me souviens que quand j'étais petit, on était une des premières familles à avoir une Peugeot 207 ou 205, je ne sais plus. Une Peugeot Roland-Garros. Elle était verte, verte métallisée. Et j'étais très fier d'avoir une voiture très spéciale.
Il y avait de la moquette au plafond et qui était déchirée. Et du coup, on avait toujours des peluches oranges dans les cheveux quand on sortait de la voiture.
On mettait des bagages à nos pieds. Et ma sœur dormait dans le... On levait un petit lit dans le coffre, au-dessus des bagages. Mon frère et moi dormions à l'arrière.
Souvent, mon père, il ouvrait le toit et on se mettait toutes les trois debout. Et on avait les cheveux au vent avec... voilà. Et je me souviens qu'on chantait à tue-tête quand on commençait à voir le village. On voyait l'église du village et on chantait tous les trois « Je vois l'église de là, 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 là. »
Et je me souviens d'un jour où moi je tenais un sac plastique, le toit était ouvert et le sac plastique, il est parti dans les airs, il a volé. Et il est sorti de la voiture, il est parti sur la route et on l'a vu dans les rétros, tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais c'est une expérience esthétique qui m'a marquée.
Tous les moments où j'ai vomi aussi. Enfin, ma pauvre mère qui me tendait ses mains parce qu'il n'y avait pas de sac plastique. Et c'est un moment ça qui m'a beaucoup marqué où je vomis dans ses mains. J'étais juste en mode maman, je pense que je peux vomir sur le sol parce que dans tous les cas, ça touche par terre là.
Le Scénic de mon papa, il sentait la voiture neuve, mais moi c'était vraiment une odeur qui me dégoûtait. Et du coup, dès qu'on faisait des longs trajets, j'étais toujours obligée d'avoir une pomme avec moi parce que la pomme était le seul truc qui m'empêchait de vomir quand j'étais donc à l'arrière de la voiture de mon papa. Et alors maintenant, je pense que c'est parce qu'il mettait du pchit-pchit dans sa voiture parce qu'il ne voulait pas que ma mère crame qu'il était en train de fumer au volant quand il était tout seul dans sa voiture.
C'est drôle parce que moi, il n'y a pas une voiture dans laquelle j'ai le plus de souvenirs parce que j'ai grandi dans un collectif et donc dans ce collectif... Les voitures elles-mêmes étaient collectives, donc il fallait s'inscrire sur un emploi du temps pour pouvoir emprunter la voiture qui appartenait donc à tout le monde. Et donc à chaque fois elle est différente, à chaque fois il y en a une, c'est l'essuie-glace qui ne marche pas, l'autre c'est le coffre qui ne ferme pas à clé, l'autre encore la sécurité enfant qui a été appliquée et du coup on ne peut pas sortir depuis les portes arrière.
Je viens de la campagne et on passe notre permis dès que possible pour pouvoir... bouger de chez nous, chez nos parents pour être libre un peu. Et du coup ma première voiture c'était cette Twingo verte toute petite que j'ai trimballée et trimballée en France, en Europe, je l'ai cabossée.
Et qu'est-ce que je l'aimais cette voiture? Elle m'a emmené dans toutes les teufs, dans tous les festivals. C'est ma belle-mère qui me l'avait offerte quand j'avais 18 ans. C'est je pense le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Un de mes potes de l'époque, un punk, un vrai schlag, était monté sur le toit avec ses Rangers pleines de terre et il a laissé une marque de ses Rangers sur le toit de la voiture et je l'avais pas remarqué. Et c'est plusieurs mois après, un jour mon père regarde ma voiture et me dit mais pourquoi il y a une marque de Rangers sur le toit et sur le capot? Je l'avais même pas remarqué. Du coup j'ai trouvé ça excellent et je me suis dit ma voiture aussi, elle est punk.
Au point qu'elle a fini à la casse, pas par un accident, mais que je suis allée chez un garagiste pour la faire réparer et qu'il ne m'a pas laissé repartir en disant que ma voiture était une épave parce qu'elle avait trop vécu.
Et puis elle a fini sa vie dans un pré où on a roulé à fond, on avait accroché au rétroviseur une patte de cochon et on s'était tous déguisés et on a fait un tour du village en klaxonnant avec cette Jedi où... On pouvait péter les amortisseurs, on s'en foutait. On avait tous 16 ans, on était fous, on était jeunes, on sentait bon.
Voilà, donc dès que je croise une coccinelle, j'ai un énorme smile.
Dans quel objet ?
Dans quels objets se réfugie
ta joie,
ta tristesse.
Ta tristesse et tes désirs.
Dans quel objet se réfugie ta joie, ta tristesse et tes désirs ?
Désir.
C'est quand même trois émotions extrêmement. Deux émotions différentes et après le désir. C'est hyper dur. Alors attends.
Oula, bah il se réfugie pas toujours de la bonne manière, je pense.
Je pense aux bougies.
Ils peuvent se réfugier dans l'alcool.
Alors j'ai compris il n'y a pas longtemps qu'une partie de ma joie, de ma tristesse et de mes désirs se réfugiait dans la cigarette. Et c'est pourquoi j'espère parvenir à arrêter de fumer, de manière à récupérer ces petits bouts d'émotions fort précieuses.
Meine Wünsche sind vielleicht in meinen Wanderschuhen, my sadness under my bed sheets and my joy in my bicycle.
Qu'est-ce que t'as amené là en venant à Marseille pour te sentir bien dans ta chambre ?
J'ai ramené des petits canards en bois parce que je fais une petite collection de canards en bois. Voilà, j'en ai pris trois parce que j'en ai beaucoup trop et qu'il fallait pas non plus que je me charge de tous ces petits canards. Mais en fait, c'est vrai qu'ils me réconfortent beaucoup.
Pour moi, ce serait un micro parce que bah, j'adore la musique et être en cabine, genre, c'est ce qui me permet d'extérioriser un peu tout ce que j'ai sur moi.
Dans le cinéma, parce qu'enfant, avec ma grand-mère, tous les dimanches, nous allions dans une salle de cinéma en Algérie.
Et j'aime bien regarder une série sur Netflix, ça me détend. Et je peux avoir toutes les émotions possibles.
Et surtout manger, j'aime beaucoup manger.
Et mes désirs, ben, j'ai pas de dildo, mais c'est vrai que ça, c'est le premier truc qui me viendrait en tête. C'est pas très élégant, mais...
Alors les désirs bah, dans la culotte, hein, bien sûr. La joie dans la culotte et la tristesse... pas dans la culotte. La tristesse dans un mouchoir.
Et la tristesse, ça peut plutôt se réfugier dans un verre de vin qui enivre un peu et qui fait oublier un petit peu.
Alors pour moi, c'est une boîte que j'ai héritée de ma grand-mère. C'est une boîte à couture. Et en fait, cette jolie boîte en bois, elle est magique parce que quand je l'ouvre, ça sent encore ma grand-mère. Et du coup, je l'ouvre très rarement parce que j'ai peur que l'odeur s'en aille. Et il y a tous ces vieux boutons et ces aiguilles, ils sont en fil à l'intérieur. Voilà, donc des fois, je me fais des petits shoots de mamie.
Ma joie, ma tristesse et mes désirs sont tous ensemble dans mon sac à dos.
Ça met combien de temps un deuil ?
Ça met combien de temps un deuil ?
Ça met combien de temps un deuil ?
Moi, j'ai perdu un ami il y a bientôt 3 ans. Même si j'y pense moins fort qu'il y a 3 ans, je suis quand même dans le deuil de cet ami-là. Et je pense que ça ne finira jamais. Donc finalement, est-ce que ça finit un jour ? Je ne suis pas vraiment sûre.
C'est toujours beaucoup d'émotions à chaque fois où on va me parler de mon grand-père, on va me poser des questions, où je suis amené à aller réfléchir plus loin, plus profondément, les moments. Et à ce moment-là, je me sens à nouveau envahir d'émotions comme si c'était des émotions refoulées. Et là, je me dis, ah merde, mais j'ai peut-être pas fait mon deuil en fait.
Il y a un truc qui picote au bout du doigt quand le souvenir revient. Moi, c'est la main gauche, mais je pense à... C'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais je pense qu'il y a un moment où ce picotement s'arrête. Et c'est peut-être là où on sait que c'est ok, on peut continuer à vivre et même à sourire quand on est un peu triste.
On apprend à vivre avec, avec l'absence de cette personne. Et je pense que c'est plus facile pour ceux qui restent que pour ceux qui s'en vont.
J'ai observé que souvent, quand je pense à des gens que j'ai perdus, qui sont morts, j'aime dire leur nom comme une incantation. Je dis le prénom et je redis le prénom. Tant que je suis vivante, les gens que j'ai connus et aimés, qui sont morts, je dis leur nom et c'est bien. On dirait que je les fais revivre avec leur nom. Je répète et je répète
Des fois, il y a des images d'eux qui viennent, mais c'est leur nom qui est le plus important pour pas qu'ils meurent.
Moi, je me suis souvent demandé à partir de quand tu effaces dans tes contacts les numéros des gens qui sont décédés.
Moi, ça fait 15 ans que ma grand-mère est décédée. Je crois que j'ai gardé pendant presque 10 ans son numéro fixe de sa maison.
Moi, je pense que c'est le temps de perdre son téléphone.
Moi, ce que je me dis, c'est que la personne, elle est en moi et que c'est tout ce qu'elle m'a transmis qui continue de vivre à travers moi, quoi.
Ça nous construit et donc après ça fait partie de nous, donc en soi ça s'arrête jamais.
Ma grand-mère, elle est morte le 25 décembre, donc le jour de Noël. Et en fait, la veille, je me suis endormi normalement et j'ai fait un rêve super étrange où il y avait ma grand-mère qui me disait que le soleil n'allait pas se lever. Ou je sais pas si c'est ma grand-mère qui me le disait, mais il y avait genre... j'avais l'impression que le soleil n'allait pas se lever ce jour-là. Et du coup, je me suis réveillé hyper tôt avant que le soleil se lève. Et j'avais tellement peur que le soleil se lève pas, que je suis allé sur la place de mon village et j'ai regardé le soleil se lever, quoi. Et c'était un matin super calme et super beau. Mais vraiment, j'avais jamais vu genre un matin aussi calme. Et puis je suis rentré chez moi et là en fait il y avait ma mère qui était dans la cuisine et elle a appris que sa mère était morte, quoi. Et j'ai pas été triste. C'était comme si j'avais vu ma grand-mère une dernière fois. Et que genre qu'elle était là dans ce matin et que j'ai vu le soleil se lever et que je savais que la vie allait continuer.
Je pense que si on est tenté d'appeler quelque chose un deuil, c'est qu'il y a une rupture, et qu'une rupture dans une vie, c'est le temps d'accepter qu'on est dans une autre vie. Et ça peut prendre une seconde comme ça peut prendre toute la vie. Donc il n'y a pas de temporalité au deuil, mais je pense que la question, c'est quand est-ce qu'on est de nouveau joyeux de vivre malgré la rupture. Et ça, le plus vite, c'est le mieux.
Il n'y a pas longtemps, j'étais dans ma cuisine et j'écoutais la radio. Et je suis tombée sur une émission et il y avait Mohamed El-Khatib qui parlait. Et il y a une chose qui m'a beaucoup touchée et plu et qui a fait que ensuite je me suis beaucoup intéressée à son travail. C'était celle de dire que le deuil n'existait pas, qu'il n'y avait pas vraiment de deuil, et que aussi il y a des expériences dans la vie qui rendent pas plus fort, mais qui rendent peut-être plus faible, et c'est pas grave. Et j'ai trouvé ça très réconfortant. Et ça m'accompagne, je pense, beaucoup. Et je crois que c'est une phrase que je répète maintenant.